cette deuxième rencontre de la série Mettre en scène les auteurs vivants, présentée en cette 11e édition du Festival de théâtre des Amériques. La rencontre réunissant aujourd'hui le metteur en scène Alex Manson et l'auteur de théâtre Daniel Dany. Quelques mots de présentation, très bref. Quelques mots d'abord sur Alain Françon, qui depuis 1996 dirige le Théâtre National de la Colline à Paris. Auparavant, il avait fondé le Théâtre Éclaté d'Annecy en 1971, puis dirigé le Centre Dramatique National de Lyon, Théâtre du 8e, de 1989 à 1992, et également le Centre Dramatique National de Savoie, de 1992 à 1996. Au Théâtre National de la Colline, il réaffirme saison après saison son attachement à présenter essentiellement des œuvres du théâtre du XXe siècle, Tchekhov, Ibsen, Strindberg, Brecht, Odon von Rockwart, mais aussi, plus près de nous, Hannah Müller, Edward Bonn, Michel Dinaver et Daniel Dany, bien sûr. Alors, d'un tournant de siècle à l'autre, Alain Françon dialogue avec des auteurs et avec des œuvres qui, pour apprendre ses propres mots, arrachent un bout de sens au chaos du monde. Alors, au fil des années, Alain Françon a nourri des affinités électives avec certains auteurs auxquels il a sans cesse voulu redonner la parole, Tchekhov, Vinaver, Edward Bonn et, oui, Daniel Dany. Daniel Dany, que vous connaissez bien sûr, qui, depuis la création de Celle-là en 1993 à l'Espace Beau, s'est imposé par la singularité, par la radicalité de son écriture. Une écriture pour le théâtre, oui, certes, mais où le récit s'empare souvent du temps présent, du dialogue. Rappelons pour mémoire Cendre de cailloux, Le chant du dire-dire, Le langue à langue des chiens de roche et Les nuages de terre, une œuvre qui a été présentée au Festival de théâtre des Amériques en 1995. Auteur associé au Théâtre de la Colline la saison dernière, Daniel Dany voyait donc sa plus récente œuvre, un roman dit créé dans ce théâtre en janvier 2005 dans une mise en scène d'Alain Françon, spectacle que vous pourrez voir ici même au Monument National à partir de demain. Alors, mettre en scène les auteurs vivants. Certains d'entre vous étaient peut-être ici hier pour la journée rencontre-forum autour du thème qui crève les artistes. Et à l'occasion, l'électroacousticien Robert Normando rappelait une réalité que l'on a souvent tendance à oublier, à savoir qu'il y a un siècle, à Paris ou ailleurs dans les grandes capitales du monde, les grands orchestres ne jouaient presque exclusivement que des œuvres des compositeurs contemporains. Et ce n'est en réalité, nous rappelait toujours Robert Normando, qu'avec l'apparition du disque, que le répertoire a pris l'importance que l'on sait, que ce soit à l'Orchestre National de France ou à l'OSM ici à Montréal. Est-ce qu'il en est même au théâtre? Est-ce que depuis une quarantaine d'années, avec ce que l'on a appelé le règne du metteur en scène, le répertoire n'a pas pris une plus grande place? C'est une des questions que l'on abordera au cours de l'heure qui vient. Et, par le fait même, la question essentielle, la seule question en fait que je poserai à mes invités, quelle différence fondamentale y a-t-il entre monter Tchekhov, Marivaux, Racine, ou alors un auteur vivant? Certains couples auteurs metteurs en scène ont marqué, vous savez, profondément l'histoire du théâtre au XXe siècle, de Tchekhov et Stanislavski à Michel Tremblay, André Brassard ici au Québec, en passant par Jean Genet et Roger Blin, Bernard-Marie Calvez et Patrice Chéreau, Otto Strauss et Peter Stein. Est-ce que l'écriture de ces auteurs a été modifiée par la présence à leur côté de ces grands accoucheurs scéniques? Alors voilà, c'est la question essentielle dont nous parlerons au cours de l'heure qui vient, en compagnie de Daniel Dany à ma droite et d'Alain Françon à mon extrême droite, position qui ne lui va pas du tout. Je commence par Daniel Denis parce que M. François a un peu dormi et croit avoir le cerveau mou. Alors, Daniel Denis, avez-vous l'impression que votre écriture a été modifiée par votre rencontre avec Alain François? Que vous êtes demeuré du même ou qu'au contraire, quelque chose s'est passé dans les deux sens?
Au début, la première fois que j'ai eu. En fait, ça. La première fois que je suis allé en France, j'ai vu sur une scène un spectacle d'un texte de Roger Blanchon, La Remise, qu'Alain Françon montait. Je connaissais ni Alain Françon, ni une comédienne qui jouait et qui s'appelait Dominique Balladier, un personnage qui était exactement ce que je pouvais entendre éventuellement du personnage de celle-là, la mère. Et j'ai demandé à Lucien et Micheline Atoum, j'ai dit à la dame que j'ai rencontrée, qui travaille pour le théâtre ouvert, Micheline et Lucien Atoum. Et je leur ai dit, il y a une dame qui parlait, mais d'une façon tellement, c'était tellement important la manière qu'elle traitait les mots dans sa bouche et dans son corps. C'était à la fois vivant et à la fois on entendait tout, mais qui dépassait l'entendement. C'est comme si le texte était hyper lucide. Lucien Yatoun et Micheline ont dit on va faire rencontrer le metteur en scène. Et j'ai rencontré Alain et on lui a soumis. Les Yatoun ont soumis à Alain le texte de celle-là. Et comme il était en train de monter les pièces de guerre, il n'avait pas beaucoup de temps pour lire. À un moment donné, il me rappelle en disant « Oui, ça me plairait beaucoup de monter. » Yacoum était très content. Et donc, les premières rencontres se sont passées de façon téléphonique. Mais les questions, et encore aujourd'hui, c'est la même chose, que ce soit au téléphone ou en direct avec Alain, la nature des questions que pose Alain par rapport à la scène, au personnage, ça dépasse tout ce que j'avais entendu comme piste de travail pour l'art théâtral. Et c'était si important de la manière qu'il me posait ces questions, parce qu'on dépassait l'entendement de ce que... Ça résonnait avec mon travail, ça résonnait aussi avec comment je réfléchissais le théâtre. Et la manière qu'il les posait, c'est comme si ça me renvoyait, mais à 100 000 à l'heure. C'est comme si c'était une propulsion où je pouvais aller encore plus loin, c'était une des permissions d'approfondir le récit, c'était la permission d'approfondir la relation entre le véhicule que peut être un personnage. Le véhicule, parce que véritablement, il transporte du sens, mais il transporte aussi des capacités de faire interagir la scène. Je ne veux pas être trop abstrait quand je dis ça, mais c'est vraiment des impulses importantes. Et à partir des premières questions qu'Alain m'a posées, autour de celle-là, j'ai répondu avec le chant de Zirti. Et comme je n'avais pas assisté au projet de travail autour de celle-là, Alain m'a invité à venir travailler pendant en totalité après un mois et demi avec les acteurs, avec lui, en train de travailler. Et encore là, les questions et la manière de diriger les acteurs, de diriger la production ont été... c'est la première fois que je voyais ça, c'était sidérant. Et ça m'a... Là-dessus, dans celle-là, dans le champ de dire-dire, il a nommé un mot qui a été déclencheur pour le prochain texte, qui a été... c'est le mot archaïque. Et autour du mot archaïque, je me suis demandé si je pouvais aller encore plus loin dans l'archaïsme. Et j'ai plongé pendant 7-8 ans autour du terme de l'archaïsme, sans savoir ce que c'était véritablement. Oui, on peut lire la définition dans le dictionnaire, mais ça ne donne pas un texte pour ça. Mais la ramification de comment j'ai vu travailler avec les acteurs, ça, mais je pouvais aller n'importe où, parce que c'est la qualité du travail d'Alain autour du texte fait qu'on est sûr, au bout du compte, qu'on va entendre, non pas la parole, mais on va entendre les circuits énergétiques à l'intérieur du texte. Et ça, c'est une chose absolument phénoménale.
Mais si je vous entendais, c'est une présence d'accoucheur, c'est une présence de lecteur extrêmement attentif, comme le souris d'un éditeur, avec la neutralité bienveillante de l'analyste, mais sans être jamais directif, sans souhaiter que l'œuvre aille dans une direction ou une autre.
Au départ, par exemple, l'œuvre était un monologue et j'ai longtemps parlé après le chant du désir, j'ai rencontré Alain à plusieurs reprises. je lui disais que j'étais en train de préparer un monologue qui était et finalement je lui disais mais je suis tellement en chamaille avec, avec la forme de monologique. Il me disait ouais, il faudrait peut-être imaginer que tu puisses développer d'autres axes, etc. Comme par stimulation de rencontre, j'ai abouti à cette forme-là où il y avait 26 figures et après on s'est installé. Après je lui ai donné le premier texte à l'an 2000. On s'est assis et puis on a commencé à travailler à l'intérieur du texte. C'est-à-dire, il m'a posé d'autres questions à l'intérieur de chaque scène. Quelle était la relation de quel personnage à tel autre, etc. Et j'ai peaufiné, raffiné le texte jusqu'à la version scénique, ou même j'en ai retranché pour servir la scène.
Pour lui plaire.
Non, ça serait trop simpliste. Non, c'est vraiment la chimie scénique qui fait qu'à un moment, on comprend aussi qu'il y a un vocabulaire qui se crée. Et moi, j'aime avoir cette souplesse en travail. C'était la première fois que je pouvais le faire véritablement en étant très libre et sans perdre toute la notion du fil de l'écriture.
Est-ce que vous croyez, Daniel Dany, qu'un auteur peut être tenu dans l'ombre? Conservé en attente d'éclosion, même tué par une série de metteurs en scène qui, au contraire, ne comprennent pas ce qu'un auteur écrit.
Moi, je n'ai pas d'a priori sur l'écriture. Comme, par exemple, je ne réfléchis jamais à la scène en tant que telle. Je réfléchis à la notion, par exemple, de la forme de l'écriture. L'endroit où je pose mon imaginaire est jamais sur la scène, mais toujours en forêt, en campagne, bientôt en ville, sur d'autres textes, d'autres problématiques qui m'intéressent maintenant. Mais jamais je suis plongé sur la scène. Donc ça permet toujours au metteur en scène de travailler comme il le souhaite à l'intérieur de la matière. Souvent, ce qui me chagrine, c'est uniquement l'idée de... Quand on est trop proche de la... quand on psychologise, par exemple, les personnages, quand on ne leur donne pas un statut de mythologie, même si ça se passe en campagne québécoise, si on garde les personnages à la hauteur des pâquerettes, tout en étant en même temps la notion d'être concret par rapport à la scène, au personnage, si on lui donne un caractère trop ras des pâquerettes, on ne peut pas faire lever le texte. Je ne sais pas pourquoi, il faut qu'il y ait un souffle. Il y a le pneuma qui existe à l'intérieur du texte, qui doit faire partie intégrante de la force de la représentation théâtrale. Ce que je retrouve chez Alain. Parce que, si vous voulez, pour moi, Alain travaille justement sur cette respiration entre la scène et l'écriture, et toujours à l'intérieur du sens du texte, toujours à être à l'affût de ce que ça raconte. Et comment chacune des choses peut être précise, que l'acteur soit responsable de ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de véhiculer sa mémoire, il est en train de dire quelque chose, il faut qu'il soit conscient de chacune des choses qu'il dit, et comment il est en interrelation avec les autres. Ce qui semble être un propos tout à fait simpliste, théâtral, mais ça ne se passe pas toujours comme ça sur la scène. Et
vous parlez du travail avec les acteurs, est-ce que Alain Françon demeure votre seul et unique interlocuteur, ou si vous allez en répétition, parler, travailler avec les acteurs, avec même les équipes de production?
Alain m'a invité au Champ de Dire-Dire, la première fois où j'ai été réellement invité à parler longuement avec les acteurs, sans que ça lui fasse peur. Ici, au Québec, je peux comprendre pourquoi c'est difficile de recevoir les auteurs autour d'une table de travail, parce que parfois ça peut être dérangeant, mais pour Alain, au contraire, ça nourrit toujours. Maintenant, après, il en fait ce qu'il veut. Mais je raconte n'importe quoi. Je raconte tout ce qui tourne autour de la matière de l'écriture. Mais en fait, toute cette matière-là ne sert jamais aux acteurs. Mais elle sert à ramifier de l'imaginaire. Mais elle ne sert pas à jouer, parce qu'elle est tellement... il y a des sur eux ou tous les autres de mes textes prennent le terreau dans les rêves, beaucoup dans les rêves, donc dans les images, non pas dans le rêve de façon simpliste, mais dans les rêves, dans ce que Bachelard appelait la matérialité qui s'incarne dans une image ou même dans des mots. Et donc, je suis totalement dans l'image, et tout ce que je raconte autour n'est pas jouable, c'est injouable. Mais après, c'est juste une ramification, c'est comme un arbre. Et puis après, Alain, il débite l'arbre, et puis après, il en fait une forêt. Il en fait une...
On a tous lu les lettres à Roger Blain de Jean Genet. Est-ce qu'on pourra lire un jour les lettres à Alain Françon de David Dany?
Non, mais comme j'écris comme un pied. Non, c'est très vrai, comme j'écris comme un pied, je veux.
Et vous êtes ignorant comme une porte aussi, on l'a su récemment, on n'avait jamais lu.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est un fait, c'est-à-dire que l'endroit où je. Et c'est pas pour être. J'en fais pas une gloire, c'est. C'est uniquement au départ, j'étais très jeune et tout ça, mais c'est vraiment une facette de l'endroit où je campe mon écriture. Et l'écriture, elle ne vient pas parce que j'ai appris à lire et à écrire, mais parce que j'apprends à connaître l'image. Et c'est dans l'image que tout se passe et tout ressurgit. Et j'écris avec mon pied, littéralement, c'est-à-dire que c'est de là où vient l'image. C'est un procédé. Après, bien sûr, il y a la correction, il y a le travail et tout. Mais oui, si un jour j'ai quelque chose à raconter, ce serait bien que je prenne quelques pages. Mais il faut que j'ai un temps pour me séparer du travail que j'ai fait, parce que comme j'ai passé un an et demi là, j'ai le temps de digérer l'entièreté de tout l'enseignement. Parce que véritablement, pour moi, Alain demeure un maître, dans le sens, il n'y a pas ça que je dis ça, mais c'est-à-dire qu'il est passé à un endroit pour moi où il est unique dans l'endroit où il travaille, totalement unique. Et c'est vraiment un enseignement, on apprend tout le temps de lui, et ça fait rebondir sur l'écriture aussi.
Question en parallèle, Alain est français. C'est curieux, étonnant le nombre d'écrivains québécois, romanciers, auteurs de théâtre, qui ont dû passer par ailleurs pour revenir à la maison. Qu'on pense à Anne Hébert, Jacques Poulain, la liste est innombrable d'écrivains qui ont dû se déplacer pour peut-être mieux voir l'écriture et voir le Québec. Je me souviens d'André Major qui disait qu'il est parvenu à l'écriture après un séjour de 2 ans en France, où il n'avait pas réellement d'interlocuteur, mais il a su voir son écriture dans la distance. Avez-vous l'impression que le fait qu'Alain soit français contribue à établir une distance entre vous et vous?
Non, c'est parce qu'il écrit Chiquier en théâtre, ça pourrait être un Québécois, un Allemand. C'est parce que la manière de parler du théâtre est tellement belle et pure que à cet endroit-là, ça fait rebondir. Parce que je suis passé par plusieurs maisons, à l'Espace Go, avec Gilles Champagne, ici avec René Richard Cyr, avec Gustave Pratt. Donc j'ai rencontré des gens ici, mais l'endroit où Alain et moi on s'est rencontrés, c'est sur la langue. Et là, c'est tout d'un coup, on est tombé d'accord sur la langue. Et que la langue, pour moi, elle est de l'ordre de l'image, et lui, elle est de l'ordre de la profération, hein, donc elle est de l'ordre de sa théâtralité. Et là, tout d'un coup, le point de jonction, c'était la langue. Après, par exemple, comme Alain disait, dans le travail de vœux, la jonction, par exemple, d'une tragédie qui pouvait se passer, une tragédie ou un mythe ou un épopée qui se passe en pleine forêt, pour lui, ses connecteurs étaient plutôt grecs. Et donc, ensemble, pour se parler, on s'est parlé en images. On a découpé des images dans l'IB, on a regardé des peintres, on est tombé d'accord sur Bruegel, par exemple. Donc, il y a des images, des personnages comme ça, et tout d'un coup, c'est comme si on arrivait à faire des traductions de comment on pouvait arriver à entrer à l'intérieur de la matière de peur, que moi-même je ne comprenais pas à l'intérieur. C'est-à-dire on produit, on travaille à travers les images et après on rend lucide tout le cheminement qu'on a fait.
Allez, oui, réchauffé maintenant. J'aimerais revenir à ce dont je parlais en introduction. On va refaire ici l'histoire du théâtre au XXe siècle, rassurez-vous. Mais est-ce que vous croyez, comme l'électro-acousticien Robert Normandeau disait hier, qu'il est possible de faire des liens entre musique et théâtre, entre chef d'orchestre et metteur en scène, lorsqu'on aborde la question du répertoire et de la présence des compositeurs et des auteurs vivants dans les programmations? Vous êtes metteur en scène, certes, vous êtes aussi directeur artistique. Cette question du rapport au répertoire, vous devez vous la poser chaque jour.
Oui, mais ça n'a pas de sens si on ne se la pose pas d'une manière totalement précise. C'est-à-dire, pour moi, c'est assez simple, parce que comme... en fait, je viens de tout à fait autre chose que du théâtre. C'est-à-dire, j'étais prof d'histoire de l'art, donc j'ai une formation d'historien de l'art. Donc je connais la peinture et la littérature, pas du tout. Donc, quand j'ai commencé à faire du théâtre, pour moi, il y avait des auteurs contemporains, enfin, ceux qui étaient mes contemporains, c'est-à-dire vivants, qui me parlait du monde dans lequel j'étais. C'est-à-dire le reste, je ne comprenais rien. Shakespeare, je n'ai jamais monté Shakespeare et je ne comprends rien. Je trouve ça admirable quand je le lis, mais je serais incapable de monter. J'ai fait beaucoup de progrès parce que maintenant les Grecs, ça, je connais un peu. Mais donc, pour moi, la fréquentation des auteurs vivants est comme, je dirais, l'indispensable naturel. Donc après, en ce qui concerne le répertoire, si on n'arrive pas à faire des liens très précis, des passerelles, je ne vois pas. Si vous voulez, par exemple, au Théâtre de la Colline, arrive très souvent quand moi ou d'autres metteurs en scène, on travaille sur Tchekhov, sur Ibsen, sur O'Neill, Strindberg. Pour des raisons qui sont très précises, c'est parce que je crois que c'est, pour l'ensemble, ce sont des auteurs qui ont fait le passage du siècle précédent. Et il peut, c'est pas sans rapport, pour un moment en tout cas, ça n'a pas été sans rapport avec justement le passage du 21e. Il peut donc faire la passerelle, et puis parce que c'est des inventeurs, et puis parce que, je sais pas, parce que le théâtre d'Ibsen, le motif principal du théâtre d'Ibsen est une chose qui aujourd'hui, je veux dire, devrait intéresser tout le monde. Et que Tchekhov, c'est plutôt sur l'invention de la forme, oui, on peut dire ça comme ça, mais ça reste comme. Comme le premier. Donc, quand on fait ces circulations-là, oui. Ou alors, je ne sais pas, c'est des circulations, je ne sais pas, peut-être effectivement, à côté de la pièce de Daniel, il fallait peut-être monter l'Orestie. Enfin, ça, autre chose. Mais on aurait pu faire une passerelle. Alors, c'est en ce sens qu'on peut aller vers le répertoire. Je crois que c'est toujours très important d'y aller. D'y aller voir, en tout cas. Mais. En aucune manière, on peut se contenter de faire un travail archéologique, faire un travail
muséologique.
Oui, muséologique, un travail de forme, tout simplement.
Vous connaissez comme moi la formule qui revient souvent chez les journalistes, Marivaux ou Lessing ou Shakespeare, notre contemporain. Comment vous réagissez devant une formulation pareille?
J'ai deux réactions, s'il vous plaît, parce que dans le théâtre que je dirige, on reçoit entre 600 et 800 manuscrits par saison. Sur les 800, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui comme des vieillards. J'y peux rien, c'est vrai. Et de l'autre côté, c'est sûr que quand on. Par exemple, Stéphane Braunschweig vient de monter Joël Brandt d'Ibsen. C'est une pièce dont on avait longtemps parlé, j'ai vu la représentation seulement vendredi dernier. C'est colossal comme œuvre. C'est complètement contemporain, enfin, je veux dire, si le mot contemporain a du sens. Donc.
Patrice Chéroux disait à peu près dans les mêmes termes que vous lorsqu'il parlait de Combat de nègres et de chiens, comme vous savez, Comtesse a été révélé en France par Patrice Chéroux, et lorsque Chéroux a inauguré, pris la direction du théâtre Lanterne Amandier en 83, il a inauguré son mandat en créant Combat de nègres et de chiens. À ce moment-là, il a dit, j'ai l'impression de vous citer, c'est une pièce, une réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Jusqu'à ma rencontre avec lui, je croyais que le théâtre ne pouvait pas raconter le monde actuel. Je me trompais. Pour moi, c'était un auteur qui avait un immense avantage, le principal même, c'était un auteur vivant. Vous pourriez utiliser les mêmes termes face à tous les textes que vous décidez de monter.
Oui, je pense, si vous voulez, la posture mise en scène, que ce soit la pièce de Daniel ou que ce soit Tchekhov, la posture mise en scène est absolument la même.
Et là, oui.
À mon avis, oui, dans le rapport au texte. Alors, après, j'ai des préférences, c'est-à-dire que c'est vrai que je préfère le vif au mort, je préfère la parole plutôt que des notes que je lis dans la correspondance de Tchekhov, que je préfère la présence à l'absence. Et puis surtout parce qu'il y a des questions. Qui sont, à mon avis, des questions fondamentales sur lesquelles, quand on monte du répertoire, on reste légèrement solitaire avec ces questions. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, on vient sur un dernier texte que Daniel vient d'écrire qui s'appelle Demeure, qui est un matériau, c'est pas forcément une pièce finie. On vient de faire 5 semaines de travail avec des élèves de 3e année d'une école en France, et puis on a fait ici un laboratoire au Tavoir pendant des acteurs pendant 2 jours. Et si vous voulez, c'est un examen de ce matériau. Après, il y a plein de conclusions. On dit, mais si on devait par exemple le monter, le mettre en scène, mais aussi je pense que pour l'écrivain, c'est fondamental qu'il ait eu cette expérience, parce que je crois que ne serait-ce qu'au niveau de, comment on peut appeler ça, la structure, disons, ben, je pense qu'il y a eu des choses. Moi, j'ai aussi compris certaines choses en, le travaillant. Donc, je trouve que c'est là que c'est formidable, la présence d'un auteur et le vivant d'un auteur, c'est la manière dont il peut réagir quand le travail, est en mouvement, est en train de se faire. Quand on pose la question, c'est vrai par exemple la présence des auteurs, en ce moment elle ne me gêne pas, mais je la souhaite. C'est-à-dire que je pense que c'est fondamental qu'il soit là. Et c'est très bien qu'on a commencé, parce que d'abord l'auteur a parlé, puis moi je parle en deuxième, je trouve que c'est très bien comme ça. C'est-à-dire, parce que par exemple, quand je travaille sur Tchekhov avec les dramaturges avec qui je travaille, quand on monte Ivanov par exemple, on travaille sur le drame. Qui est la deuxième version, et sur la comédie qui est la première version. Entre les deux, il y a 2 ans d'écart et il y a des variations énormes. On travaille sur les structures et on essaye de. Finalement, on décide par exemple de faire une autre version, la nôtre qui est entre les deux. S'il avait été là, j'aurais bien aimé son avis. Mais parce que non, mais pas seulement pour. Pas seulement comme. Pas seulement comme une manière d'accréditer la chose, mais pour répondre fondamentalement, parce que je crois que. Mais en fait, ça vient vraiment de la mise en scène. Il y a des gens qui font du style. Alors, ils font le même style partout. Alors, que ce soit Danis, que ce soit Binaver, que ce soit un autre, c'est toujours. Alors, j'aimerais bien, moi, ne pas me voir du style. Je ne sais pas si j'en suis. Évidemment, il y a une manière, ça se voit, ça se reconnaît, mais j'aimerais bien ne pas en avoir, justement. Parce que je crois que si. Mettre en scène, ça a du sens, c'est simplement d'amener le texte à la représentation. Alors là, par contre, la mise en scène, hein, c'est la chose fondamentale, c'est-à-dire que tant qu'on. À partir du moment où on construit la représentation, et où effectivement il y a une assemblée théâtrale qui se met en place, qui est réunie pour, chacun prend sa place, paye sa place, prend sa place, assiste à. Alors, ouais, la représentation, elle m'appartient, c'est-à-dire qu'à partir de là, mais effectivement, c'est un travail de collaboration, par exemple, avec Daniel, mais la représentation, c'est moi qui décide. Bien sûr, tu décides de la représentation, les réglages de la représentation, c'est moi qui les assume. Mais, je ne sais pas, c'est au-delà, à mon avis, c'est au-delà de la collaboration, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème d'agencement des choses, sans arrêt, quoi. Un deal? Non, parce que si c'était un deal, ça serait. Non, c'est plus que ça, c'est que je crois que si on part bien, c'est que personne ne sait où il va. Je ne sais même pas si l'auteur sait vraiment ce qu'il a écrit. Je sais, moi, je vais dire là, je vais demander Platonov, j'ai beau l'avoir lu 15 fois, je n'y comprends rien. Peut-être au bout de 2 mois, et quand des acteurs en plus m'ont écrit certaines choses en jouant, peut-être je verrai vaguement. Par exemple, j'ai décidé de monter le Chant du Cygne avant Platonov, c'est-à-dire de faire une double représentation, puisque le Chant du Cygne dure 20 minutes, je vais présenter ça d'abord comme un pedrito. Aujourd'hui, je ne sais pas, si on m'interrogeait vraiment, je ne sais pas pourquoi je les ai mis l'un derrière l'autre. Pourtant, je suis persuadé qu'il y a une raison. Et bien, je la trouverai au fur et à mesure. Quoi, le mouvement, c'est ça. Alors, ça ne peut pas être un cri. C'est simplement une. C'est simplement, comment on appelle ça? Ah, c'est simplement un problème de synergie, une chose comme ça.
Vous disiez il y a un instant, je n'y comprends rien. Mm. Et ça me rappelle les échanges entre Stanislavski et Tchekhov, où Tchekhov reprochait à tout moment à Stanislavski de n'y comprendre rien.
Oui, mais Stanislavski lui faisait semblant de comprendre.
Ben voilà, c'est ça.
mais lui, il avait une méthode et tout. Non, mais je pense en plus que. Non. La forme précédente d'où il venait, je trouve que c'est. C'est un homme de théâtre remarquable, je veux dire, moi je déteste la méthode Stanislavski, ça me fait horreur, mais bon, ça c'est mon problème, mais j'ai le plus grand respect pour la.
Mais ce que je voulais vous demander, est-ce que l'incompréhension n'est pas pour vous une condition première pour vous intéresser à un texte?
Non, parce que ça serait une coquetterie, non, c'est vraiment une manière de se mettre au travail. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut décider quand on fait une mise en scène si on sait tout? Rien, je veux dire, on va emmerder les acteurs si on sait tout. Moi, si j'étais acteur avec un mec qui sait tout en face, je lui dirais, ferme. Ah non, c'est vrai. Je lui dirais d'attendre 2 minutes et de réfléchir. Surtout d'essayer de commenter ce qu'on est en train de faire, par exemple. Donc, s'il n'y a pas ça, mais si les pièces elles sont formidables, il n'y a pas besoin de les monter non plus. Donc c'est, il faut bien. Mais le problème c'est de trouver exactement. C'est organique, je veux dire, à répondre, c'est exactement la même chose, par exemple. Et Edouard, il dit toujours, par exemple, quand il voit les spectacles qu'on fait, il dit toujours ouais, là il y a la vision. Mais avant de la faire, moi je n'ai pas la vision. Et je ne fais surtout pas de mise en scène parce que je suis un visionnaire, parce que j'ai des choses à communiquer, quoi. Je suis beaucoup plus laborieux que ça. Ce qui m'intéresse, c'est une tâche, quoi. Mais parce que la tâche, elle est jamais finie. Moi, j'ai pas d'œuvre à faire, je m'en fous. Donc, ça veut dire que, à partir de là, mais il y a le système inverse. Ça m'est arrivé aussi, dans ce système-là, tout à coup, au bout d'un mois et demi, de trouver que le texte avec lequel je travaillais n'était pas à la hauteur. Ça m'est arrivé aussi. Là, c'est assez désespérant.
Désespérant, pourquoi?
Parce qu'après il faut finir le spectacle et qu'à ce moment-là, ça fait appel à du savoir-faire.
Parce qu'au théâtre, il faut absolument, puisqu'on l'a programmé, présenter la pièce.
Ben, il vaut mieux, j'aimerais. Financièrement, par rapport au ministère, tout ça.
Est-ce qu'il y a une responsabilité supplémentaire qui pèse sur le metteur en scène qui crée une œuvre?
Redites-moi, parce qu'avec le décalage,
est-ce une responsabilité supplémentaire? Parce qu'après tout, que vous saccagiez volontairement ou involontairement,
nous avons entendu chaque
on s'en fiche. Dans le cas d'un auteur vivant, il pourrait ne pas s'en remettre par votre faute, quoi.
Ah, bah oui, bien sûr. Ah, bah, c'est une responsabilité première, je crois. Mais alors là, il y a des vérifications sont lourdes et si on prend par exemple l'œuvre d'Edouard Bond en France, en tout cas, je me souviens plus des années, mais ça doit être vers 65, il a eu plusieurs pièces de lui montées et tout à coup, c'était l'époque où il travaillait lui-même au Royal Court, tout à coup il y a eu quelque chose qui s'est embrasé sur la vidéo. Et puis parce qu'il y a eu d'autres mises en scène pas nulles. Alors pendant 15 ans, on n'en a plus parlé. Et je pense que ça, c'est gravissime. Mais aujourd'hui, par exemple, pour retravailler avec lui, j'ai eu énormément de mal, parce que je me suis retrouvé en face d'un homme méfiant, ne supportant plus aucun malentendu sur son écriture. Et voilà, j'ai mis des années à l'apprivoiser. Maintenant, c'est un copain, ça va, mais c'était difficile. Mais simplement, je crois qu'à un moment, il a vu effectivement l'évidence que problème d'évidence. Alors je pense que par exemple Daniel, ça pourrait être ça pourrait tomber malencontreusement. Mais parfois les gens font avec la meilleure volonté, et parfois on se trompe avec la meilleure volonté. C'est pas parce qu'on est bête ou qu'on sait pas lire, mais...
Et parce que les textes à une certaine époque sont difficiles à lire. Certains auteurs prennent 10 ans, 20 ans avant d'être synchrone avec l'esprit contemporain, si je puis dire.
Mais oui, si quand on travaille sur les pièces d'Edouard qui se passent au moment où il écrit que des fictions qui se passent en 2077, si vous voulez, il y a tout un répertoire comme ça, de choses qu'il faudrait décliner et examiner, mais c'est une situation très précise pour lui, 2077. Et à l'intérieur de. C'est pas simple parce que moi je me sens pas metteur en scène, une âme de. Je me sens aucun droit à prévenir les gens et à dire ce que sera l'avenir. Et pourtant il faut que je montre des pièces qui se passent en 2077. Donc j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sûrement c'est déjà commencé ce qui va se passer, que ça avance millimètre par millimètre. Ça pourrait arriver. Alors voilà. Mais évidemment, c'est une démarche d'esprit. Hein,
Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en désaccord profond avec l'auteur sur l'édition d'un texte, d'une œuvre? Ou d'un passage?
Oui, ça m'est arrivé. ça m'est arrivé une fois depuis Nadal.
Et à ce moment-là, qui doit céder? Faut-il qu'il y ait quelqu'un qui cède?
Bon, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que j'avais fait une expérience sur une pièce de Michel de Nadal qui s'appelle Les Travaux et les Jours. J'avais fait une expérience de mise en espace pour le théâtre ouvert. Et donc c'était quelque chose de répétition. Il est arrivé à une forme qui était assez magnifique, sur laquelle lui était absolument, pour lui c'était formidable. Derrière j'ai pu faire le spectacle, et quand il a vu un filage de spectacle, il a trouvé ça nullissime. Pourtant il y avait tout, cette fois il y avait le décor, il y avait des dramaturges qui avaient travaillé, et je lui ai dit qu'il se trompait. Je lui ai dit que son jugement ne pouvait pas s'arrêter là. Et en plus, ce que je me suis rendu compte très, très vite, mais c'est très sympathique en même temps, c'est pas du tout. C'est qu'on a joué, il a assisté à la première, et le public a ri immédiatement. Comme c'est un homme qui est très sensible à ça, non pas pour se faire plaisir, mais parce que je crois qu'il est dans un endroit très organique entre le comique et le tragique. Quand il a entendu le rire, il a été immédiatement soulagé, à l'entracte, il a dû m'embrasser en disant « t'as raison ». Il n'y avait pas de changement pour ça, simplement je crois que la mise en scène lui faisait plus peur que la mise en espace, parce que la mise en espace était plus proche du texte et ressemblait davantage à ce que lui pouvait imaginer de la représentation de son texte. Que la mise en scène avait travaillé sur des tas de choses, et ça avait été plus loin, que c'était à mon avis aussi juste, et il en est convenu, quoi. Simplement la première réaction était ça, par exemple, c'était une expérience dans laquelle les Michel, je n'avais pas du tout travaillé avec lui. Toutes les expériences qu'on a fait après, j'ai monté 5 ou 6 pièces de lui. Il a toujours été présent dans le travail, avant le travail, après.
Vous disiez tout à l'heure d'avoir travaillé avec un dramaturge sur Ivanov et aussi sur un texte de Pinabert. Est-ce que, même sur les créations d'œuvres actuelles, et lorsque l'auteur est vivant, vous souhaitez travailler avec un dramaturge? Dans le cas de Dany, est-ce que le dramaturge était présent entre vous et Daniel?
Oui, mais en l'occurrence, le Guillaume Lévesque qui était dramaturge là est en même temps acteur dans la pièce, il joue. Et il est en même temps metteur en scène. Donc, c'était plus. C'était pas vraiment un dramaturge, c'était plus un deuxième regard, comme ça nécessaire parfois.
Alors la présence du dramaturge n'est évidemment pas de même nature lorsqu'on travaille sur Tchekhov ou sur une œuvre contemporaine.
Non, ce serait plus difficile à cerner quand... Mais si vous voulez, par exemple, avec... c'est-à-dire que moi, c'est toujours très lié au texte. Par exemple, le dramaturge d'une pièce de Brand, c'est Michel Vitoz. Michel Vitoz est le traducteur. Donc si vous voulez, c'est-à-dire qu'une traduction de Brand, ça demande en gros 8 mois, une vingtaine d'allers-retours à Cambridge pour... et des heures entières à comprendre pourquoi il a mis ce mot plutôt que celui-là, etc. Avec lui, en plus, qui fonctionne lui-même comme dramaturge de son propre texte, en expliquant à des moments très précis, finalement. C'est-à-dire que chaque fois, tout à coup, il refait le trajet de la pièce, je veux dire. Et donc, c'est pas du... C'est-à-dire, Michel, quand il vient à la dramaturgie, qu'il assiste au travail de répétition, en fait, il a... On a fait ensemble beaucoup de dramaturgie par le biais de la traduction, c'est-à-dire par les choix qu'on a pris, qui sont souvent des fois particulièrement lourds. Vitoz, quand il est dramaturge sur Tchekhov, je ne sais pas, par exemple, le personnage de. Le chant du cygne s'appelle Calcas, pourquoi il s'appelle Calcas? Alors, parce que Tchekhov, quand il avait 13 ans, sur la belle Hélène, etc. Je dis, donc ça veut dire que ça travaille, on essaye de comprendre et comprendre et comprendre. Mais souvent c'est sur les structures que ça joue. Si vous voulez, je ne sais pas, le vrai travail de dramaturgie, c'est tout à coup de venir un matin en disant mais est-ce que tu t'es rendu compte que par exemple dans le deuxième, troisième acte et quatrième acte de la moitié, il y a au moins 35 fois il faut que. Oui, là, il y a un motif, et après ce motif, on essaie de comprendre comment il se déplace, comment il est envoyé, à quel moment il est envoyé, quel personnage.
Et dans le cas de Daniel Dany, ce travail, vous faites avec lui.
Là, on l'a fait un peu en amont,
ouais, c'est ça.
Avec Daniel, parce que si vous voulez, le matériau était colossal au départ. Donc, ça fonctionnait comme une série de lectures dans laquelle parfois je disais, mais sur la structure, il semblerait plus judicieux, je ne sais pas, que.
Il faudrait que.
Et souvent, c'était. Je n'étais pas décidé tout de suite, c'est-à-dire que je crois qu'il repartait avec les interrogations qu'il pouvait y avoir là-dessus. Des fois, ça se conclut très facilement, ça me le dessus. Ou alors, je ne sais pas, par exemple, quand on a. Sur le travail de répétition, ça a été sur des répliques. Ou même quand on a retravaillé sur le dernier texte qui vient d'écrire de meurtre, des fois je vous ai dit, il y avait des clarifications à faire sur certaines répliques, et tout à coup, il suffisait que, je ne sais pas, un segment de phrase n'y soit plus. Ce n'est pas les coupes, c'est tout à fait autre chose, pour que tout à coup tout paraisse beaucoup plus évident, lumineux. Non pas pour un problème simplement de compréhension ou de signification, mais pour un vrai problème de sens. C'est-à-dire de ramener. Pour ramener l'ensemble de l'œuvre à une visée de sens.
Je pense que le temps est venu que l'on se tourne vers vous et que l'on cesse de dialoguer ensemble tous les trois. Un micro vous atteint pour la deuxième partie de cette rencontre. La parole est à vous. Vous avez certainement des questions, commentaires, réflexions à partager avec Daniel ou Alain Françon. Alors voilà, maintenant la parole est à vous. Marcel Pomerleau fuit plutôt que de s'approcher vers le micro. Ce n'est pas possible que personne ici n'ait de questions sur ce travail de mise en scène sur un auteur vivant. Eh bien oui. Ah tiens, la première courageuse.
Moi, je me demande, parce que naïvement, je pensais que le fait qu'on décidait de monter une pièce, c'était plutôt parce qu'on avait l'impression de savoir l'éclairer, pas mieux, mais d'une certaine façon, pour les spectateurs. Donc, on décidait de monter quelque chose parce qu'on voyait quelque chose que peut-être tout le monde ne voyait peut-être pas. Si on n'y comprend rien, pourquoi on décide de monter ce texte-là?
Justement, parce que... Il me semble que sur le voir, il faut s'interroger. Une pièce, elle prend du sens que si justement elle ouvre des visibilités. Mais c'est le texte qui ouvre des visibilités. Seulement ces visibilités étaient là, peut-être que l'auteur ne les savait pas, peut-être qu'il les avait écrites. Et que le metteur en scène, peut-être qu'il ne le savait pas non plus, mais que le travail étant, il les avait ouvertes. Mais il s'agit bien d'un cas de visibilité. C'est pas du tout la même chose. De dire, moi je sais, moi je vois. Moi ce que je vois, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, en fait, je ne pense pas que ça puisse être partagé par qui que ce soit. À partir de là, je veux dire, la représentation, oui, ça m'intéresse. Parce que dans la représentation, il y a représentation nouvelle. Donc c'est ce travail-là qui m'intéresse. C'est-à-dire l'agencement de signes qui fait que tout à coup, et bien effectivement, il y aura de la visibilité quelque part. C'est-à-dire que tout à coup, il y aura des choses montrées ou vues qui n'étaient plus vues. Qu'on ne voulait plus voir, qu'on se débrouillait pour qu'on ne voit plus, etc., etc., tout ça. Mais ça, ça n'est que si, dans le travail, s'ouvre de vraies visibilités. Dire je vois, évidemment, quand je commence à travailler avec les acteurs, j'arrive pas en disant je sais rien. Ça veut dire que j'en ai pris des notes, pas forcément sur la pièce, mais sur des lectures qui, en apparence, n'ont même rien à voir avec la pièce. C'est comme tout à l'heure, on parlait de dramaturgie, les dramaturges qui vous font le sens à longueur de phrase, de la paraphrase, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, le premier dramaturge avec qui j'ai travaillé, c'était Georges Didier-Berman. Quand il me parlait, c'est un spécialiste effectivement d'esthétique, de psychanalyse, quand il me parlait, je ne comprenais rien. Aussi. Et simplement en travaillant, des fois, trois semaines après, je me disais, mais ça me rappelait ce qu'il m'a dit. Et alors là, j'essayais effectivement de rediscuter avec lui pour bien voir si j'avais bien compris ce qu'il avait dit, si c'était bien possible de le mettre en pratique comme c'était. Et donc, ouvrir une visibilité ou des visibilités, c'est ce qui serait mieux, ça n'a rien à voir avec une vision. La vision, je m'en fous. Enfin, les mettre, ça suffit.
Dans sa présentation, Marie-Hélène Falcon, la directrice du FTA, parle, présente la programmation du festival 2005 en insistant sur déplacer le regard. Les auteurs qui nous intéressent, les artistes qui nous intéressent sont précisément ceux qui déplacent le regard. Et par conséquent, au début, on peut n'y rien comprendre, croit-on, mais saisir que notre regard est déplacé, amené ailleurs, dans un ailleurs où on a envie d'aller. Est-ce que cette nécessité s'impose, selon vous, pour une œuvre nouvelle qu'elle vous déplace?
Oui, mais encore faut-il voir comment, faut-il voir de quel ordre ce déplacement. Si je prends une dramaturgie comme celle de Wiener, le déplacement, il est toujours un film. Et en plus, il le fait toujours avec, en s'assurant bien que le spectateur sait très bien qu'il est l'objet de son déplacement. Ça, c'est par exemple, donc c'est une... je ne sais pas, ça veut dire que l'écriture de Michel Wiener n'est jamais que, par exemple, un remaniement des phrases, un drôle d'enchaînement des phrases. Par exemple, les dialogues de Wiener sont des dialogues impossibles. On a l'impression qu'on les a entendus, en fait, ils sont complètement déplacés. Donc là, je ne sais pas, c'est comme de l'ordre du micro-déplacement. Si on va chez Bond, c'est totalement l'inverse, puisque finalement, l'objet de la question qu'il examine sans arrêt, c'est qu'est-ce que c'est être humain? Enfin, humain dans le sens d'humanité, pas d'humanité, c'est-à-dire pas la croix rouge. Et pour ça, il est obligé d'écrire des situations extrêmes. C'est-à-dire des situations qui dépassent même la tragédie, c'est-à-dire les catégories de la tragédie, terreur et pitié. C'est-à-dire qu'il va plus loin, il va à l'horrible, jusqu'à essayer de trouver une représentation de l'horrible. C'est plus du micro-déplacement, c'est un cataclysme, les pièces de Bond. Pour en avoir fait l'expérience, il y en a où ça se passe bien, les spectacles, et il y en a où les gens se lèvent. Et manifeste.
Parce qu'ils ne veulent pas entendre comme ça.
Pourquoi je peux vous donner un exemple, mais je peux que donner un exemple. Ça va être long. Par exemple, il a écrit une pièce qui s'appelle Café. Et c'est dans une scène de café. Café, c'est il a pris exemple sur cet événement de Babillard, c'est-à-dire cet endroit où dans une fosse naturelle, les Ukrainiens, sous commandement des soldats allemands, faisaient passer les Juifs sur la colline en face, les fusillaient, ils tombaient dans la fosse naturelle, et ils avaient posé. Et donc il avait le témoignage d'une survivante de cet événement, et elle lui a donné comme image, ce dont elle se rappelle, c'est qu'avant de tomber, elle avait vu les soldats boire leur café. Et elle se demandait comment, face à un crime pareil, les soldats qui faisaient ce crime, qui en étaient le sujet, l'objet, comment pouvaient-ils boire du café? Il pensait là qu'il y avait un motif énorme pour le XXe siècle. Il a mis 15 ans avant d'écrire la pièce parce qu'il apportait justement ce motif, parce qu'il ne savait pas comment écrire. S'il avait eu la vision, il aurait écrit tout de suite. S'il ne s'était pas méfié de ses visions, il aurait écrit tout de suite. Il a mis 15 ans pour trouver le mot, comment le faire. Donc, de ce qui restait, en tout cas au milieu de la scène, pour arriver vite à ce que je veux dire, on voyait les soldats qui tournaient le dos au public et qui tiraient avec des mitrailleuses, des vrais, ça faisait beaucoup de bruit, sur une cible qu'on ne voyait pas. Et ils tiraient comme on a tous pu tirer dans les foires, là, c'est au stand. Avec jubilation. Les gens s'en allaient surtout à cet endroit-là, et en manifestant. Et alors, si la pièce s'était appelée Sang, si on avait vu les victimes, et si on avait vu les victimes dans leur sang, c'est-à-dire si on avait été sur un mode compassionnel, personne ne serait parti, à mon avis. Mais on était sur l'inverse, un mode compassionnel, c'est-à-dire on était sur un mode d'intelligibilité de la situation. Ça s'appelait café, c'est-à-dire quand le soldat faisait son café, c'est comme moi quand je prends mon café le matin et que j'écoute les nouvelles d'Irak, d'ailleurs, enfin entre autres. Et donc je fais simplement ce fait-là. Pourquoi tu as pris cet exemple ? C'était quoi la question ? Ben je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'effet de distance provoqué. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème.
Épandez-vous, vous étiez refusé à la compassion.
Ben oui. Ben oui, parce que. Ben là, je radote parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit une fois, quoi. Mais c'est la phrase des cubes à Agamemnon. Prends du recul, comme un peintre. Si tu veux connaître les malheurs qui m'accablent. Donc il s'agit bien d'une opération d'intelligibilité avec le recul et la peinture, et pas d'une opération compassionnelle. Et donc si on veut connaître les malheurs vécus, il vaut mieux en sortir que d'y rentrer.
Et c'est ce qui est difficile à recevoir pour un spectateur aujourd'hui.
Ah, forcément, c'est ce qui renvoie chacun à lui-même, face à une situation extrême, justement. Face à une situation d'inhumanité. Mais tout le problème de cette dramaturgie, elle est qu'il va visiter tous ces points-là pour enfin redéfinir, si vous entendez ce foudrage, juste poser les deux pierres qui permettraient de redéfinir ce que c'est être humain.
Votre travail de metteur en scène sur un texte qui vient de naître est celui d'un lecteur qui, si je comprends bien, doit essayer de ne pas faire violence, simplement d'écouter et de ne pas imprégner sa lecture de quelque scorie que ce soit. Mais c'est le travail le plus difficile, c'est-à-dire comment laisser parler le texte et trouver la manière la plus juste de le transmettre.
C'est un travail de résistance, c'est un travail de... Peut-être qu'il y a un mot qui convient pour parler de ça, ça veut dire se trouver continuellement en situation de ne pas savoir, de ne pas être démuni.
Résistance à quoi ? C'est un travail de résistance.
Résistance à tout ce qui ferait que l'objet se ferait très vite comme un paquet de cadeaux. Donc ça veut dire résistance au jeu des acteurs, parce qu'ils ont une formation qui ne convient pas forcément, par exemple, ce qui concerne une pièce de théâtre. Et à tout ce qui sollicite d'une autre manière, c'est-à-dire à tout ce qui sollicite sur, j'ai envie de dire, pour être très vite, sur le petit commerce des arts. Donc essayer de se situer, d'être suffisamment démuni pour ne pas rentrer ni dans le savoir-faire, ni dans le commerce de l'art.
Ou de faire dévier l'œuvre.
Ou de faire dévier l'œuvre.
Par un regard, notre regard.
Oui, encore qu'il ne s'agit absolument pas de ne pas avoir point de vue sur l'œuvre, c'est le contraire, je veux dire. Parce que fondamentalement, ce qui se passe, c'est que si la dramaturgie en mouvement, pas arrêtée, pas sur le savoir, mais en mouvement, c'est-à-dire au moment des répétitions, si, quand ça aboutit, quand il y a des formes d'évidence qui se dégagent, quand il y a des visibilités qui apparaissent, on voit bien qu'il y a une lecture. C'est une vraie lecture. Et c'est le contraire de l'autre démarche.
Comme disait Hegel dans Maîtres anciens, mieux vaut lire trois lignes d'un livre et s'en imprégner totalement que de connaître aussi peu un livre que les passagers d'un avion, le paysage qui survole. Mais lire, ce qui s'appelle lire, c'est un travail extrêmement difficile.
Oui, parce que je me souviens, c'est encore une anecdote, mais quand on a monté les pièces de guerre, c'était la première fois qu'il y avait un groupe, il y avait à peu près 25 acteurs, on s'est enfermé pendant 6 mois pour monter 6 heures de spectacle, c'était la première fois que les pièces de guerre étaient montées. Je peux vous dire qu'au bout de 2 mois et demi, il n'y en avait aucun de nous qui savait ce qu'il faisait. Les acteurs ne savaient plus jouer. Mais la résistance, c'était de dire non. C'était simplement de dire, on ne peut pas faire comme ça. Ça, on sait faire, ça c'est idiot. On ne va pas faire, justement, on va pas faire de la compassion. Ni de l'esthétique là-dessus. Enfin, ni du savoir-faire, ni de la forme. Alors, où est-ce qu'on prend? et puis petit à petit les scènes se constituent, et puis petit à petit, c'est ça qui est formidable, c'est l'évidence. Comment expliquer ça? C'est un phénomène inexplicable. Vous répétez une scène pendant des heures et des heures, vraiment des heures. Vous la tournez dans tous les sens, vous l'examinez sur tous les machins, il se passe. Et puis, pourquoi? À un moment, il y a un truc qui se fait, et là, je veux dire, il n'y a même pas besoin de dire c'est ça, ou c'est juste. Parce que tous les acteurs l'ont vu. Tout le monde le sait comment ça se passe. Et quand on se dit c'est juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, la distance est juste. C'est que enfin, c'est comme quand on regarde dans des jumelles, quoi. C'est-à-dire pendant très longtemps, c'est brouillé parce qu'il y a des acteurs qui jouent du pathos, etc. C'est brouillé. Et puis, à un moment, l'image est nette. Alors, la distance est juste, et dans juste, il y a justice. C'est le début de justice, en tout cas.
Vous disiez tout à l'heure que vous receviez entre saint et saint PS. Alors comment qu'est-ce qui vous arrête sur la tête? Pourquoi vous êtes particulièrement interpellé par vos paroles? Et la question de Monet, puisque vous animez News, est-ce qu'il y a nécessité pour vous de faire le pont entre cet objet qui vous attire mais que vous ne comprenez pas et le public?
Si vous voulez, sur les lectures, je ne suis pas le seul lecteur, hein. Il y a tout un groupe et on essaye en plus de... C'est difficile d'avoir humblement un avis. Mais alors, ça veut dire que on répond à tout le monde, ça veut dire qu'on s'est insulté souvent. Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on a dit qu'effectivement la structure ça nous paraissait, ou je ne sais pas quoi. Enfin, alors on s'est traité de bondien aussi, de stalinien, etc. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que ce débat-là me semble totalement nécessaire. Enfin, je veux dire, il me semble nécessaire que la structure de lecture soit une structure forte, avec les erreurs qu'elle peut faire. Enfin, je suis le premier à en reconnaître, mais. Avec les erreurs qu'elle peut faire, mais l'affirmer comme une structure forte de lecture. Alors souvent, le drame, c'est que comme on n'est que deux metteurs en scène dans le théâtre, et pour moi, il y a très peu de pièces qui passent de l'envoi à la réalisation sur la scène, parce qu'en même temps, il y a plein d'autres metteurs en scène qui viennent avec des projets d'auteurs contemporains sur lesquels ils sont en train de travailler. C'est souvent, par exemple, j'ai présenté la saison dernière, la semaine dernière, la saison prochaine. Il y a quand même deux ou trois textes qui ne sont même pas écrits, enfin qui sont juste dans le projet d'écriture. Donc ça veut dire que c'est quand même gonflé parce que les abonnés, quand on leur dit, ça ne va pas vraiment parler de ça, mais c'est un peu bizarre. Après, de façon, ça va, puisqu'ils sont là, ils sont unis encore, ça va, ils sont repartis. Mais et après, en ce qui me concerne, c'est le... Si vous voulez, il y a toujours un endroit où ça... Il y a toujours un mot qu'on peut dire. Quand j'ai lu celle-là, la première des choses que j'ai dites, c'est quand on m'a demandé de la monter, je dis mais moi j'ai rien à voir avec ce théâtre, je ne saurais pas faire. Enfin, c'est pas. Je suis un lecteur enthousiaste de cette pièce, mais je ne suis sûrement pas le metteur en scène pour faire ça. Et puis, finalement, après beaucoup de discussions, finalement il y avait un mot qui restait, c'était que je trouvais cette écriture authentique et singulière. Quand je veux dire singulière, c'est que je disais tout. Lui, au moins, il ne compte pas sur les autres. Enfin, il y avait un truc que je trouvais très particulier, trop particulier même. C'est pour ça que j'avais prononcé le mot d'archaïsme en disant « mais je suis incapable de faire ça, je suis trop... je ne sais pas, je connais trop la peinture, je ne sais pas, enfin, j'avais du mal avec tout en pensant qu'il y avait un phénomène de langue, par exemple, à l'intérieur, enfin, que c'était... et qu'il fallait le monter, qu'il fallait absolument le faire. Et bon, puis je l'ai fait, puis je ne me suis pas arrêté là, parce qu'après, ça... avait tout lieu de continuer. Mais pour ces raisons-là, donc si vous voulez, chaque fois, l'envie de communiquer quelque chose au spectateur, c'est vraiment qu'il y a toujours quand même à un endroit, souvent c'est un mot, ou alors c'est dans la pièce un motif qui est très particulier et qui retient immédiatement. C'est, par exemple, la structure, la première fois que j'ai monté une pièce de bande, c'était La Compagnie des Hommes. J'ai remonté deux fois, j'ai remonté après. La première fois, je suis allé le voir justement en lui disant cette pièce, je veux la monter, mais je ne comprends rien. Enfin, pour revenir à ça, je lui ai dit, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ça me paraît être effectivement un des monuments. Si cette pièce, si on fait le bilan dans 50 ans, cette pièce sera une de celles qui restent, une des 10 qui restent. Mais... Alors, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. J'expliquais à Bond que chaque fois que je la lisais, je croyais arriver à quelque chose, et chaque fois j'étais décentré, la pièce me décentrait, m'envoyait ailleurs, et tout à coup je perdais le. Il s'est marré, et puis il n'a rien dit, et au bout de 3 semaines, il m'a envoyé 15 pages qui s'appelaient le Center. Je disais ce qu'était le centre. Et c'était effectivement une réponse absolument magistrale, parce que. Il y avait deux motifs à l'intérieur sur lesquels j'ai travaillé, et immédiatement après, je pouvais pas me livrer à un exercice fort sur la pièce, mais je savais ce qu'il ne fallait pas faire, ça j'en étais sûr pour la monter. Et je savais où il fallait travailler, la direction dans laquelle. Je savais où il fallait creuser. Quoi. Après, sur le comment, parce que moi je suis pas. Je n'ai pas assez travaillé comme étant. Enfin, je travaille beaucoup, mais je n'ai pas de méthode, je ne suis pas quelqu'un. Il y a une méthode particulière de travail. Au bout du temps, si j'en ai une, forcément, mais s'il fallait la définir, je serais incapable de la définir. Je sais qu'elle existe parce que c'est une manière de faire, une manière d'être plutôt. Mais. Donc j'ai essayé de le faire avec les moyens que j'avais et les acteurs qui étaient là.
Madame, parlez fort, vous venez au micro.
Je vais essayer de parler fort, vous me direz. J'aimerais que M. Françon me parle justement du phénomène de la langue, parce que je trouve que ce qui me fascine dans l'œuvre de Damien Maïs, à part l'urgence du récit, c'est la langue. Bien sûr, il y a des échos québécois, mais ce n'est pas le québécois ni de son Saguenay natal, ni du Carrois, ni le Joual de Montréal. Alors, comment avez-vous abordé cette langue avec les comédiens à Paris?
Excusez-moi, Daniel, est-ce que Stéphane, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter la question?
Oui, bien sûr.
Parce que Daniel, on entend.
Très bien. Madame pose la question de la langue, qui n'est pas une langue québécoise, qui est une langue québécoise inventée, en fait. Si je comprends bien la question, le sens de la question, comment un metteur en scène travaille ce matériau linguistique, cette langue française, avec ces comédiens-là? Ça reflète à peu près ce que vous demandez, oui.
Je voulais avoir le mot juste de Daniel. C'est-à-dire que pour la première fois avec les acteurs, que ce soit sur celle-là, le champ du tir-tir ou eux, il nous a bien semblé qu'il y avait des expressions qui étaient, je ne sais pas comment dire, complètement de chez vous, enfin, je ne saurais pas comment dire autrement, mais il nous a semblé qu'en plus de ça, il y avait une vraie langue, donc une vraie. Agitation des mots et une vraie création des mots. Enfin, une vraie création. Alors, je ne sais pas si on me demandait, je prends un exemple, mais il est un peu plus bête, mais dans n'importe quelle littérature, la phrase dirait Gilles, désemparé, traversa la cour, ses bottes à la main. Et chez Daniel, ça fait. Gilles traversa la cour, les bottes désemparées à la main. C'est-à-dire que le désemparé passe sur les bottes et passe sur le sujet. Et ça, ça me passionne, par exemple. Parce que c'est exactement un théâtre apsychologique. Puisqu'on ne peut pas jouer qu'on est désemparé, puisque c'est les bottes qui sont désemparées. Donc, c'est un casse-tête pour les acteurs, parce qu'il est formidable. Et puis, ben, ça, pour moi, c'est. Voilà, je veux dire, c'est. Je prends cet exemple, il est un peu vulgaire, il y en a d'autres qui sont plus intéressants sûrement, mais celui-là, moi, c'est pour ça que je lui demandais si c'était bien bon de s'emparer. Celui-là, il traverse tout à coup comme ça, alors je le dis, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. C'est que je pense que c'est un vrai créateur comme ça de la langue. Et que ces situations sont. Que, c'est déjà, ça c'est plus compliqué, que ces situations sont vraiment des situations de langage. Alors que dans eux, il fait un geste épique. C'est-à-dire que le geste et l'écriture de eux est un geste épique. Et pourtant, c'est que des scènes de langage. Enfin, c'est par exemple une contradiction assez difficile à résoudre ça. Mais que les conséquences de ça, je trouve qu'elles sont importantes parce que les conséquences sont que quand on travaille sur son texte avec les acteurs, on est obligé de. On ne peut plus employer le mot personnage, on est obligé d'employer le mot figure ou le mot fonction ou. Enfin, je ne sais pas, des mots comme ça. Et en fait, on se rend bien compte en plus que tous les procédés de jeu qui sont. D'un ordre psychologique ou illustratif, il ne fonctionne pas. On a essayé, mais on le fait hein, très souvent parce que, des fois, on n'a pas d'autre idée que celle-ci. Alors, on la tente, en général, c'est catastrophique parce qu'il ne se passe rien. Quoi. C'est-à-dire, le texte reste lettre morte. Donc, le problème, il est comment faire vivre cette langue qui n'existe que d'elle-même et qui est un drôle d'agencement des mots. Enfin, pour moi, c'est. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais enfin, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'agencement des mots qui, justement, ne va pas de soi. Et donc, est une manière d'ouvrir, justement, par la langue, on pourrait dire des visibilités, mais aussi d'une manière sonore, des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et moi, ça me fait toujours l'effet, si je regarde une représentation là, tout à coup, il m'arrive des phrases où je me dis, ah, c'est incroyable comment il a décalé ça, comment c'est décalé, comment c'est déplacé, comment c'est drôlement agencé. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est toi, tu comprends.
En même temps, je ne crois pas que ce soit fait, par exemple, des particularités sur la langue avec les acteurs. Jamais, par exemple, on a.
On peut travailler avec les acteurs, on fait comme si c'était Racine. C'est-à-dire, comme si c'était une langue. Par exemple, comme le geste est épique, ça demande en tout cas à ce que les acteurs portent la langue d'une manière parfaite. Et quand on joue dans des grands lieux, ça se passe. Parce qu'évidemment, l'épique demande une légère, comme ça, un souffle. Et quand on est, par exemple, quand on a joué à Strasbourg, la salle était petite et le spectacle était bancal, parce que justement, les acteurs ne pouvaient pas avoir cette netteté dans la langue. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'intime qui revenait, est-ce que c'est pas bon.
Non, ben, c'est jamais. À chaque fois qu'on a travaillé ensemble, c'est pas. Ouais, la matière de la langue était en fonction des particularités, par exemple, territoriales, des mots, tel mot voulait dire telle chose, et. C'était ramifié dans l'esprit, il ne vient pas de mots en particulier, mais dans eux, il y en avait, je crois, un ou deux. Je pense, par exemple, le mot voler, par exemple. Non, je ne crois pas que tu es intéressé à une bolée pareil, ben, chez les Français, bolée ne veut pas dire la même chose. Et nous, pour dire que c'est intelligent, mais finalement, c'est un geste qui a contribué à la signification du mot en faisant bolée comme ça. Alors que, voilà, mais on n'a jamais fait de trafic sur le vocabulaire. Et puis moi, j'en ai jamais fait non plus en pensant que c'était Alain qui allait éventuellement monter. Ça, j'ai jamais fait de particularité en disant. Voilà, elle est mal montée, donc je vais éviter de tomber dans des écueils de vocabulaire québécois. Au contraire, il y a des mots comme ça qui me viennent par les images, et après, c'est un bon problème de répétition de salle avec les acteurs. Et en général, ils s'accaparent tout le vocabulaire.
Mais en fait, c'est pas du tout au niveau du vocabulaire que ça m'intéresse, et des particularités. Régional. C'est pour moi la langue de Daniel vient
d'une relation peut-être archaïque, justement. Ça se puise non pas dans un territoire, si ce n'est pas le territoire de l'âme et des rêves et des craintes des personnages, peut-être de l'auteur. Donc, travailler cette langue, on dit qu'on ne peut pas le travailler psychologiquement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais avez-vous une approche pour aller chercher d'où venait cette expression qui porte en nous? C'est ce qui m'a dit. Est-ce que c'est Daniel Poche qui doit nous comprendre?
C'est-à-dire que, par exemple, Alain, même sur le champ de dire ce qu'il a découvert ou ce qu'il a travaillé, est en fonction de ce qu'il était, qu'est-ce qui est à raconter, et comment on est en relation d'une phrase à l'autre, et d'une scène à l'autre, comment on fabrique toute la traversée de l'écriture. Et par exemple, dans eux, ça foisonne d'images qui a l'air de se ramifier à du symbolique, etc. Mais de ça, on ne peut pas s'en servir scéniquement. Parce que si on se met à illustrer tout l'autre vocabulaire qui est en dessous, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à, comme Alain disait, si on commence à illustrer tout l'appareillage symbolique qui peut soutenir, qui est soutenu peut-être à l'intérieur des mots ou des ramifications archaïques, des mots ou des imageries. On s'en sort pas, mais quand Alain, par exemple, travaille uniquement sur la matière du verbe, et tout d'un coup, il interrelie c'est-à-dire qu'il rend concret, en n'étant pas figuratif, il rend concret la parole. Je repense que Dominique Valadier, qui est une comédienne qui travaille beaucoup avec Alain, elle est extra-lucide, c'est-à-dire que son verbe est extra-lucide. Et ça nous rend compte, on entend plus que normal. C'est comme si tout d'un coup il y avait de la lumière autour des mots qui est à dire. Et pour Alain, par exemple, toute la circulation des images procède d'abord par les mots. Et qu'est-ce qui se dit là? C'est quoi la rencontre? Ah, c'est ça qui se passe, et c'est ça qu'on montre, c'est ça qu'on travaille. Et on n'essaie pas d'illustrer, Alain n'essaie pas d'illustrer, par exemple, quelque chose qui serait d'un autre ordre. C'est l'ordre du récit, c'est l'ordre de la langue, et ça commence comment, et ça va finir jusqu'où. Par exemple, il y a une image qui a été récupérée en temps de travail, mais c'est parce que les acteurs ont travaillé longuement au début du champ du dire-dire. Tout d'un coup, les acteurs se sont posés à un moment sur une inclinaison d'un mur qui formait une partie du décor. Et dans cette inclinaison, les acteurs se sont accroupis comme des singes et ils ont émis le texte. Et juste la prise de parole, par exemple, au départ, pour Alain, c'est extrêmement important. C'est un déclencheur c'est la bougie qui s'allume et qui fait décoller le moteur. Et ce moteur-là se met en action et chaque fois, on avance dans le récit. Est-ce que ce qu'on vient de faire éclaire la prochaine scène qu'on va faire? Et s'il y a un endroit où on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se faire, tout d'un coup, il va réinterroger avec les acteurs en disant « Oui, mais même dans ton entrée, quand tu fais ton entrée, ça ne fonctionne pas. » Juste se poser cette question, pourquoi l'entrée? Le verbe doit-il venir en même temps que tu ouvres la porte ou après? Quel est le temps? Le silence a-t-il une importance par rapport à l'émission de la parole qui vient tout de suite après? Mais toutes ces petites cases sont pas analysées, mais interrogées à chaque fois qu'on avance dans le projet d'écriture. Et ça, et après, même on y revient quand il assemble l'entièreté du spectacle, il revient à chacune des portions en disant oui, mais là on se réarrête à cet endroit-là en disant oui, mais il y a un temps de silence, je ne comprends pas ce temps de silence. Et c'est l'acteur qui le porte, le temps de silence. Et donc, toute la matière et la manière de s'accaparer des textes, du texte, c'est de cette manière qu'il se l'accapare, donc de façon vraiment dans le sens fabriqué, le sens du début à la fin, du récit, de l'épopée. Et il naît après ce qui est à ressortir de ça.
Non, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, mais la réponse que je pouvais faire, c'est un rapport entre la surface et la profondeur. Je ne sais pas si ça correspond à la question que vous avez posée, parce qu'effectivement, pour les acteurs, pour chacun, c'est pas qu'ils ont eu des problèmes, c'est qu'ils ont l'habitude de faire une recherche, mais cette recherche à l'intérieur, pour chacun, souvent elle est parlée à moitié, pas vraiment. Simplement, l'expérience de la pièce montre que chaque fois qu'on descend trop loin, dans une... comment appeler ça, disons un affect, parce que je n'ai pas d'autre mot, encore je ne suis pas sûr que c'est celui qui convienne, mais quand on va trop loin dans un affect, on ne s'en relève pas dans cette pièce, parce qu'il faut jouer tellement vite qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, par exemple, il faut en une réplique être là, il faut y être totalement dans la réplique, parce que si on n'y est pas, la scène elle est déjà finie, et on n'a pas eu le temps d'y être. Par exemple, donc ça veut dire que il y a tout un travail de profondeur à un moment dans le travail qui ne tient pas compte de l'espace-temps. Donc ce travail en profondeur, c'est celui que fait chacun, dont on parle ou qu'on parle pas, ou disons par rapport à la langue, ou disons la situation, je ne sais pas, qui est fabriquée par le verbe en tout cas. Mais après, tout ça est remis dans un espace-temps, et le temps doit être hyper juste. Et on s'est rendu compte, surtout comme il alterne très souvent le récit et la scène jouée immédiatement derrière, ou entre, souvent ça fait récit, scène jouée, récit, enfin je faisais une alternance comme ça qui est très très... Donc les acteurs sont obligés de travailler l'adresse, et deux secondes après, d'être dans une situation avec toutes les intensités qui lui conviennent. Donc c'est un rapport entre, je dis, la surface et la profondeur, parce que si jamais on descendait trop loin dans les affects de la scène jouée, on ne pouvait pas remonter au récit. Et si on était trop dans l'extériorité du récit, on ne pourrait pas immédiatement appréhender la situation concrète à jouer. Donc ça, par exemple, c'est un travail d'athlète, mais vraiment, d'athlète de la langue, pour en l'occurrence. C'est une chose qu'on a beaucoup travaillé, ça. C'est pour ça que je dis, par exemple, quand on est dans une salle, je ne sais pas comment c'est trop, enfin, ça va, je ne vais pas répéter encore dans cet espace-là, mais un des soucis, par exemple, c'est de trouver sa vraie distance pour la parler. Et si on est trop dans l'intime parce que la salle est petite, on va mal jouer, enfin, on ne va pas jouer ce qui est répété, ce qui a été travaillé. Souvent c'est ça le jeu aussi, enfin, souvent c'est ça le jeu, c'est chercher la profondeur et aller à la surface. Donc comment un acteur se débrouille avec ça? Sûrement que les bons acteurs sont ceux qui ont tout inventorié et qui ne le montrent pas et qui donnent l'impression d'être justement à la surface.
Que nous allons nous arrêter là. Vous pourrez voir donc un roman dit à compter de demain, c'est ça, dans une salle qui, je l'espère, sera suffisamment grande pour permettre à l'épique de se déployer. Et vous pourrez également voir dans quelques jours l'autre mise en scène de Alain Françon à l'affiche du Festival de théâtre des Amériques cette année, Si ce n'est toi, de Edward Bound. Merci Alain Françon, merci David Denis, merci.